Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Faut-il donner la parole aux hommes violents? Faut-il écouter les harceleurs, les violeurs? Que faire de ces mots qui racontent le mal et cherchent souvent à s'en expliquer, si ce n'est à s'en justifier, d'une façon ou d'une autre? Écouter, diffuser, est-ce que c'est déjà un pas vers l'acceptation, la nuance? Est-ce qu'on a vraiment envie de voir Nicolas Bedos se faire tacler par un autre gars sur les antennes de la télé nationale? Ou bien est-ce qu'on a juste plus envie de voir Nicolas Bedos du tout? Au pied sur terre, avec toujours beaucoup de précautions et d'avertissements parfois lourdingues, en précisant qu'on n'embrasse pas le point de vue de ceux qu'on diffuse sans commentaire, on fait parfois le choix d'écouter les méchants et d'essayer de raconter comment ça se passe dans leur tête à ce moment-là, quand ils font du mal aux autres. Est-ce qu'ils en sont conscients? Est-ce qu'ils mentent? Est-ce qu'ils se mentent à eux-mêmes? Est-ce qu'avec le recul, ils réfléchissent et comprennent mieux? Ou bien est-ce que ce sont simplement des imbéciles? La différence, c'est que les deux hommes qu'on écoute aujourd'hui racontent ce qu'ils ont fait à l'adolescence, alors qu'ils étaient légalement des enfants. C'est une circonstance tout à fait atténuante, évidemment. N'empêche qu'ils ont harcelé d'autres élèves, et pas qu'un peu, au lycée et au collège, et qu'ils ne semblent pas avoir eu conscience alors de ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Voici donc un reportage de Karine Lelouette dans la tête de deux harceleurs.
Je m'appelle Damien, j'ai 36 ans et je vis actuellement dans le Finistère en Bretagne. J'ai grandi dans une famille, on va dire principalement monoparentale, dans l'est de la France. Mon père nous a laissés lorsque j'avais 5 ans, 6 ans, quelque chose comme ça, j'étais encore en maternelle. Donc j'ai principalement été élevé par ma maman. C'est un milieu très modeste, empiré de par le départ de mon père, il a laissé des dettes, ce genre de choses, donc ma mère était un petit peu dans la misère, oui. Mes premiers souvenirs de l'école, ça va remonter à la maternelle. Les toutes petites classes, j'ai souvenir d'une certaine facilité à parler aux autres enfants, à se faire des copains, une certaine insouciance, on va dire, qui disparaît petit à petit avec l'âge. En primaire, en tout début de primaire, tout se passait plutôt pas mal. Pas spécialement de conflits avec les autres. Je pense que ce genre de problématique a commencé au CE2. Et j'ai l'impression que moi particulièrement, étant tout blanc, tout maigre, tout petit, avec des lunettes rondes, des taches de rousseur, je faisais pas partie des mieux aimés de l'école. J'avais un copain, Elliot, c'était un garçon un petit peu hors du coup, un petit peu dans son monde, bercé par les jeux vidéo, je pense un petit peu comme moi. C'était mon seul ami fiable de l'école. Il était toujours là quand on voulait jouer ensemble, il était là, c'était pas un coup oui, un coup non, il était là, quoi. Quand on allait à l'école, ça m'arrivait de croiser ce que moi j'appelais les grands à l'époque, et de me faire cracher dessus, par exemple, de me prendre des gros coups de pied dans le sac à dos, des actes vite faits, voilà. Il fallait que ce soit discret, parce que c'était quand même sur la voie publique, dans la rue, donc rien qui allait au-delà d'une bousculade, ou d'un coup de pied discret, ou d'un crachat, voilà, pas plus que ça. C'était pas des insultes, c'était pas des ce qu'on aurait qualifié de gros mots. C'était pas vulgaire, c'était des brimades, en fait, c'était du rabaissement. T'es petit, t'es moche, juste casse-toi. C'était pas extrêmement violent, mais c'était assez régulier, en fait. Ouais. Je me souviens avoir bousculé un des caïds de l'école, donc une des personnes qui en imposait aux autres élèves. Et en fait, cette personne m'a rattrapé. Deux de ses copains m'ont plaqué contre un petit muret constitué de rondins de bois dans un coin un peu reculé de la cour d'école. Et le caïd que j'ai bousculé, en fait, s'est mis à me frapper de poing, de pied. Il m'a mis des gros coups de pied dans les cuisses, dans les parties génitales, au bas du ventre. Et en fait, ça s'est arrêté quand je me suis effondré en larmes. Je me souviens pas trop après. J'ai l'impression que j'ai juste été consolé par l'institutrice, peut-être réconforté, et ça s'est arrêté là. Et cet épisode-là, je m'en rappelle très bien. Je pourrais plus nommer le prénom des élèves qui m'ont acculé et qui m'ont roué de coups, mais je pourrais presque me rappeler leur visage. Ouais, c'est. Je pense que si on me ramenait dans cette cour de récréation, je pourrais situer où ça s'est passé. Oui. Dans la ville où je vivais, il y avait un collège. C'est là où allaient tous les élèves de la ville, plus de quelques villages environnants. Heureusement pour moi, je me suis pris d'affection pour un gamin qui s'appelait Kevin, qui venait d'arriver dans la ville. Lui, il ne connaissait personne, il n'avait pas de copains de primaire. Donc il était un peu tout seul dans un coin de la cour. Donc dès les premiers jours, en fait, je suis allé le voir, on a parlé, et c'est devenu un bon copain, et il m'a suivi jusqu'en seconde, comme ça. Il était un peu mis de côté, parce que c'était un peu le petit gros. Moi, j'étais tout maigre, tout blanc. Lui, en effet, il était un petit peu rondouillard, et du coup, il n'était pas très bien perçu par les autres élèves, entre guillemets, normaux. Kevin, lui, pour pallier aux brimades dont il pouvait faire l'objet de par sa particularité physique, a eu tendance à très rapidement s'endurcir et peut-être à devenir ce qu'on... Moi, j'aurais qualifié à l'époque de racaille, en fait. Donc un mec habillé en vêtements de marque, en Air Max aux pieds, les survêtes un peu larges, tout ça. C'est devenu un petit caïd de la cité, alors qu'il habitait pas du tout la cité, mais bon. Et ça a eu comme effet bénéfique pour lui qu'on lui fiche la paix. Il avait carrément un caractère beaucoup plus affirmé que le mien, et il savait se défendre. Et quand on était ensemble, je bénéficiais de ça. C'est-à-dire que si on se faisait agressé verbalement ou bousculé par un plus grand que nous dans la rue, devant le collège ou au collège, lui, il était là pour répondre, même s'il fallait en venir aux mains, il avait aucun problème, alors que moi, c'était pas possible, juste. Donc voilà, tant que j'étais avec Kevin, normalement, j'étais plutôt en sécurité et je me sentais pas en danger. Kevin m'a suivi en seconde, j'ai rejoint un lycée technologique. Donc c'était un lycée de 2000 ou 2200 élèves, principalement de garçons, je crois qu'il y avait 10% de filles, spécialisées dans les formations techniques de l'ingénieur. J'étais accompagné de Kevin, on était toujours les deux acolytes, on était tout le temps ensemble, quand il y avait des conneries à faire, on les faisait ensemble, quand il fallait se faire disputer par un prof, on se faisait disputer ensemble, voilà, c'était les deux compères. Mais Kevin a abandonné, en fait, le cursus dans lequel on rentrait parce qu'il trouvait ça trop dur. Et lors de ma première, j'ai intégré un groupe d'adolescents, une grosse bande de geeks, comme on pourrait dire, donc des passionnés de jeux vidéo. On se retrouvait ensemble, on amenait tous nos ordinateurs, on faisait des LAN, comme on disait à l'époque. On mettait tous les ordinateurs en réseau les uns avec les autres et on jouait ensemble. C'est vraiment la première fois où j'étais dans un groupe. On était d'accord pour faire des choses ensemble, où on était plus de deux, où on se rassemblait en cercle à la récré pour parler, où on allait faire un billard dans le bar à côté tous ensemble, où on allait au cinéma ou faire un bowling tous ensemble. C'était vraiment la première fois. Ça me donnait le sentiment de ne pas être exclu. Du coup, je n'étais pas brimé, je n'étais pas mis à part, encore moins frappé par qui que ce soit, bien sûr. Et tous ensemble, on était plutôt bienveillants les uns vis-à-vis des autres. On ne se faisait pas de sales coups, on se comprenait, on avait les mêmes références cinématographiques, les mêmes références vidéoludiques, ce genre de choses. Il se trouve que dans cette classe est apparu Michael. Alors, il avait des cheveux plutôt courts. Je crois qu'il mettait du gel pour se faire des petits pics dans les cheveux. Un visage plutôt rond. Il n'était pas athlétique. Il n'était pas très gros non plus. Il était plutôt enrobé. C'est un élève qui semblait être un peu dans son monde, qui calculait pas vraiment ce qui se passait autour. Mais en effet, c'est quelqu'un qui ne s'intégrait pas aux conversations, qui avait tendance à se faire le plus discret possible, qui participait très très peu en classe avec les professeurs. Et cet élève s'est retrouvé le sujet de... Maintenant, j'appellerais ça du harcèlement. À l'époque, je pense qu'on aurait juste dit « bon, ça va, on déconne avec lui », de la part de mon groupe. Je me souviens dans les vestiaires du gymnase, lorsqu'on avait EPS, éducation physique et sportive, on répétait son prénom en boucle, à voix très grave, ça donnait un peu « Mikaël ». Il faut s'imaginer ça en groupe, en boucle. Et quand il se déplaçait dans les coursives du lycée, on le suivait avec un doigt dans l'oreille, un peu comme les gardes du corps avec leur oreillette, et juste on le suivait. On le suivait en se disant des trucs du genre « Ouais, Roger, il est passé par là, ok, je le suis, il prend l'escalier, ok, je le suis. » On faisait ça, je sais pas, 2, 3, 4, et on le suivait comme ça, ouais. Par exemple, dans les interclasses, dans les couloirs, c'était assez fréquent qu'on le pousse, mais sans le pousser. C'est-à-dire qu'on s'approchait suffisamment près de lui pour clairement pénétrer sa bulle d'intimité, ce qui l'obligeait à se reculer et à se prostrer dans un coin. Et nous, en fait, on se mettait à plusieurs autour de lui et on mimait, par exemple, des attouchements. En gros, on approchait nos mains tous très près de lui, sans jamais le toucher, sans jamais l'effleurer, en faisant des bruits de jouissance, comme on pourrait imaginer quelqu'un jouir pendant un acte sexuel. Et je pense que de son point de vue, on pouvait apparaître dangereux. Et c'était très fréquent, et c'était toutes les semaines, pour sûr. Peut-être même parfois, plusieurs fois par semaine. Je pense que l'objectif, c'était de le mettre mal à l'aise. Et lui ne répondait pas, en fait, il se contentait de sourire et de rigoler, mais c'est ce qu'on pourrait appeler rire jaune. Il avait l'air de se forcer à acquiescer la blague, peut-être pour pas se rebeller, peut-être qu'en réagissant positivement, il espérait aussi pouvoir venir dans notre cercle à la récré, parler avec nous, ce genre de choses. Et je pense que sans ça, hein, sans ce qu'on lui faisait subir, ça aurait pu arriver, parce que c'était pas un gamin méchant, c'était un gamin qui, même extérieurement, présentait plutôt bien, et il avait l'air plutôt sympathique. C'est tombé sur lui, parce que c'était l'élève qui sortait du lot, c'était l'élève qui ne se rebellait pas, c'est tombé sur lui, ouais. Aucun élève ne le défendait... Et je pense que vu que concrètement, on faisait rien de dangereux physiquement vis-à-vis de lui, je pense que ça n'alertait pas les autres élèves. Donc on nous a jamais rien dit. Que ce soit lui, que ce soit le corps enseignant, tout ça, personne ne s'est jamais plaint auprès de nous, ne nous a jamais demandé de calmer le jeu, ce genre de choses. Non, c'est jamais arrivé. Pour une fois, dans ma scolarité, j'ai eu ce sentiment, ce soulagement d'être sûr cette année que je ne serai pas le bouc émissaire de la classe, en fait. Je me souviens me dire, pour une fois, c'est pas moi. Pour une fois, il y a quelqu'un d'autre à ma place. Ensuite, cet élève, en fait, on l'a perdu de vue, et je ne sais pas pourquoi. Il n'était plus présent au lycée l'année d'après. Il a juste disparu. Et vu qu'on ne s'intéressait pas tellement à lui, à aucun moment on a cherché à lui parler sur les réseaux sociaux, par exemple, ce genre de choses. On ne s'est pas posé plus de questions que ça, et ça s'est arrêté là. Après, j'ai fait des études courtes. J'ai fait 2 ans, j'ai fait un BTS, et j'ai commencé ma vie active. Je suis allé dans le sud-ouest pour trouver du travail, en fait. Et c'est vrai que ça fait pas mal d'années que je repense cycliquement à ce Mikaël, que je me demande ce qu'il est devenu, quel adulte il est devenu, s'il a fondé une famille, s'il est toujours vivant, c'est bête, mais des fois ça me traverse l'esprit. J'aimerais bien rentrer en contact avec lui, mais des fois j'ai peur qu'il juste il m'envoie chier, en fait, quoi. Des fois j'aimerais juste présenter mes excuses, en fait, lui demander pardon, juste lui dire écoute, voilà, je faisais partie de tes harceleurs de l'époque. Je ne sais pas comment tu l'as vécu, parce que je ne t'ai jamais posé la question. mais excuse-moi. Et voilà, puis on passe à autre chose. Et puis s'il veut continuer, s'il veut qu'on garde contact, pourquoi pas. Et puis si pour lui ça s'arrête là, voilà. Je pense à ça régulièrement. Mais il se passe pas un long moment sans que je pense à lui.
Je m'appelle Antoine, j'ai 28 ans et j'habite dans la région Grand Est, en Meurthe-et-Moselle. Alors, moi j'ai grandi dans le Pas-de-Calais, dans une famille, ma foi, je dirais pas favorisée, mais j'ai jamais manqué de rien. Mes parents travaillaient tous les deux, famille modeste plus. J'ai jamais eu de difficultés particulières à l'école, un bon élève, sociable, qui posait pas forcément de problème à ses parents, on va dire. J'avais un petit groupe d'amis assez soudés et l'avantage qu'on avait, c'est qu'on habitait assez proches les uns des autres. Nos parents se connaissaient, donc en fait, on a grandi ensemble. On reste de la 6e à la 5e, en fait, on reste quand même assez soudés puisqu'on avait la possibilité de remonter à pied jusqu'à chez nous. Donc ça nous mettait une heure, mais je veux dire que c'était une heure où on rigolait, on était dans la rue, on discutait, on faisait des petites conneries d'enfant, on va dire, mais... Voilà, c'était vraiment très bon enfant. À partir de la 4e, on était vraiment en pleine adolescence. C'est l'année, entre guillemets, où j'ai fait le plus de conneries. On était un groupe d'amis qui était turbulent en classe, par exemple, parce qu'on était H24 ensemble. Alors, dans notre classe, il y avait un élève qui s'appelait Lucas, qui était, je dirais, un petit peu à l'écart, qui était... peut-être différent par rapport à nous. Enfin, en tout cas, on n'a pas cherché à l'intégrer. Et c'est vrai que c'est devenu, malgré lui, notre tête de turc. Il était un peu dans son monde. Il avait un humour qui ne nous correspondait pas du tout. Mais de là à dire qu'il est, enfin, il était différent, comme on peut tous l'être, finalement. Mais je ne sais pas pourquoi, pour cette personne, du coup, dans mon groupe d'amis, il y a des gens qui ont commencé à un peu le titiller. Moi également. L'exemple qui me vient surtout en tête pour cette personne, c'était en cours de chant, de musique. On devait apprendre une chanson. Il y a quelqu'un de mon groupe d'amis qui a décidé d'un peu détourner les paroles et de tourner Lucas en dérision, en ridicule finalement. On disait comme quoi il mangeait du papier pendant ses cours, il mangeait ses crottes de nez, etc. etc. Enfin, juste pour faire des rimes, rien de fou en fait finalement, mais on s'est dit, bah tiens, cette chanson elle est très très bien, on va la déposer sur le pupitre du prof de musique. Et le professeur l'a lu, il nous a regardé, et puis ça l'a pas fait rire, elle l'a jeté, et puis on est passé à autre chose. Me connaissant, je pense que si à un moment il y avait eu, par exemple, une conseillère principale d'éducation qui nous aurait pris à partie en disant, par contre là vous arrêtez parce que ça commence à pas aller, je pense que ça nous aurait tous fait réagir, mais sur le coup, on ne voyait pas le mal. Donc, par contre, c'est vrai que l'année d'après, il n'était plus dans le collège. Alors, est-ce que ça a un lien ou pas? Je ne saurais pas dire. Alors, en troisième, on rentre toujours dans le même collège. Et là, dans ma classe, il y a un autre élève qui s'appelle Nicolas, qui va malheureusement devenir aussi notre nouveau bouc émissaire. Alors Nicolas était peut-être un tout petit peu plus grand que moi. Il avait des lunettes, il était blond, très réservé. Enfin, je ne me rappelle pas qu'il avait énormément d'amis, quelqu'un d'assez isolé. Je pense qu'on l'a considéré peut-être un petit peu bizarre, peut-être qu'il avait un petit peu plus de difficultés à l'école que nous, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui nous ressemblait en fait, quelqu'un qui était du même milieu que nous, qui était, ma foi, pas si différent, et c'est vers lui qu'on s'est tourné malheureusement. Il y avait des insultes, on l'attaquait beaucoup aussi sur la profession de ses parents. Son père travaillait dans une boulangerie, en disant, par exemple, que le pain de son père était pas bon, par exemple, était dégueulasse. Alors qu'en plus, on n'habitait même pas dans cette zone géographique, donc c'est purement gratuit. Je veux dire, moi, j'ai jamais goûté le pain de son père, si ça se trouve, il est délicieux. Donc ça, c'était des brimades et c'était peut-être le moins grave. Parce que je me rappelle très bien d'un moment, un de mes amis du moment nous avait dit « Ah bah regarde, dans la rivière là qui coule, bah, c'est le sac de Nicolas. » Et il l'avait balancé dans le ruisseau. Il y en a qui étaient beaucoup plus actifs dans le harcèlement. C'était toujours une ou deux personnes les mêmes qui faisaient les actes les plus graves. Nous, on a été tous un petit peu à titiller Nicolas sur, comme je disais, à l'insulter, etc., etc., par exemple. On rigolait bien quand on voyait le sac au fond du ruisseau, par exemple, mais on n'était vraiment pas les pires. C'était pas du harcèlement tout le temps. C'était pas tous les jours, toutes les heures, ça lui tombait dessus. Le pire, c'est que ça pouvait être de temps en temps. Enfin, je pense qu'il savait même pas forcément quand est-ce qu'il allait avoir quelque chose qui allait lui arriver dessus, en fait. Je pense qu'il y avait une certaine normalité à un moment qui s'était installée. On n'avait pas du tout de recul sur la gravité que ça pouvait avoir de harceler quelqu'un. En fait, je pense que c'était une sorte d'escalade à un moment. Ça a commencé, c'était drôle, on va aller un peu plus loin, puis on va aller un peu plus loin, puis on va aller un peu plus loin, puisque ça fait rire les copains. On n'a pas envie d'aller à un contre-courant. Tout le monde rigole, donc du coup on rigole. Peut-être que si j'avais dit quelque chose, à un moment, stop, on arrête. Peut-être qu'à un moment ça se serait calmé. Peut-être que non, mais au moins j'aurais dit quelque chose. Mais sur le moment, j'ai rien dit. J'ai jamais eu l'impression qu'il se défendait, jamais eu l'impression qu'il... Peut-être que son isolement faisait qu'il osait pas ou ça le dérangeait, mais peut-être qu'il voulait juste pas répondre en fait. En seconde, on se retrouve aussi un peu tous. En sport, ce qui se passait, c'est que toutes les secondes étaient réunies dans le gymnase pour constituer des groupes de sport. Donc on commence à discuter, etc., etc. Et on voit Nicolas, du coup, qui était assis, qui discutait avec des gens. Et les mauvaises habitudes reviennent. Et il y a des amis qui commencent à l'attaquer à distance, on va dire, en disant... ce que fait ton père, c'est dégueulasse, enfin voilà, de recommencer à rire sur lui. Et en fait, à un moment, on le voit se lever, il vient vers nous, et là, il commence à dire stop, ça suffit, stop, vous arrêtez là. Donc moi, sur le coup, je me lève, je regarde, je fais qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi ton problème? Mais au lieu de repartir, il a commencé à vouloir me mettre un coup de poing. J'ai réussi à l'éviter et j'ai foutu un coup de poing dans le ventre de Nicolas. Il est reparti. Et en fait, quand je me suis rassis, j'avais la main qui tremblait sur le coup de l'adrénaline, etc. Parce que je ne m'étais jamais battu. Et je pense que c'est peut-être même le seul coup de poing que j'ai mis. D'ailleurs, ça a calmé tout le monde. On s'est tous calmés, on s'est tous regardés en me disant « Waouh, qu'est-ce qui vient de se passer un petit peu ?» Et moi, j'étais vraiment tremblant, vraiment pas bien du tout. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, moi, ça a été un tournant. D'un coup, il y avait toute sa colère qui me revenait en pleine tête. J'ai jamais été quelqu'un qui était très porté sur la violence. Jamais été un enfant bagarreur, etc., etc. Et je me considérais, et même actuellement, je pense que je suis quelqu'un d'assez gentil. Je pense que ça m'a fait un peu un électrochoc, en fait. Je me suis dit, waouh, en fait, il en est là. Et on en arrive à un stade où lui est suffisamment en colère contre moi pour vouloir me mettre un coup de poing. Je pense que dans l'immédiat, ça m'a assez travaillé. Puis après, on a revaqué à nos occupations et j'y ai pu forcément penser. Je crois qu'il a intégré un groupe d'amis et ça s'est arrêté là. Donc après le bac, moi je pars pour faire mes études supérieures, ma préparation aux grandes écoles. Ensuite, je pars dans l'Est pour faire mon école d'ingénieur. Et ce coup de poing, Ça m'a toujours énormément travaillé. Et plus on avance, 23 ans, 24 ans, là, on commence à prendre assez de recul. Et en plus, ça a été le moment où on a commencé à beaucoup plus en parler dans les médias du harcèlement. La prise de conscience a été vraiment de plus en plus forte, où je me suis dit, quand même, c'est ce qu'on a fait vivre à Nicolas c'était, et à Lucas, ça va pas. Ça a été vraiment avec le recul, je me suis dit, ça a été vraiment le point noir de ma scolarité. J'ai été un très bon élève, j'ai été très sociable, j'ai eu une famille formidable, j'ai eu des amis formidables. Mais il y a ce gros nuage noir qui a été pour Nicolas et Lucas, où je me suis dit, je me suis construit en partie à leur détriment. Et à la fin de mes études, 2020, Covid, confinement, donc là, enfermé dans un moins de 20 mètres carrés en région parisienne, j'ai commencé à ruminer. Il faut que tu contactes Nicolas parce que je pouvais pas dire c'est terrible ce qui se passe avec le harcèlement et tout ça si je faisais pas au moins cette... je demandais pas pardon. Donc, à un moment, j'ai dit, bon, il faut que t'envoies un message. Et je l'ai ajouté sur Facebook. Le premier message, c'était le 19 mai 2020. Donc, bonjour Nicolas. J'ai longtemps hésité à t'envoyer un message, mais voilà, je souhaitais m'excuser pour l'attitude que j'ai pu avoir envers toi en troisième et au début de la seconde. J'avais une attitude envers toi pas cool à mes yeux, et avec ces nombreuses années de recul, j'ai pris conscience du mal que je t'ai sans doute causé. Je ne sais pas trop quoi te dire, hormis de te présenter mes excuses. Je suis honteux de mon comportement de l'époque et j'espère juste que tout aille bien pour toi désormais. Donc du coup, la réponse de Nicolas, c'était « t'étais loin d'être le pire ». Et excuse acceptée. En vérité, je pensais même pas vraiment que tu faisais partie des relous qui faisaient méchamment. Pour moi, toi, tu faisais pour rire et encore, je t'entendais pas souvent faire ça. Donc moi, je lui réponds. J'ai vraiment été lâche. À l'époque, je voulais rester avec mes copains et j'ai cautionné des choses qui me révoltent désormais. Du coup, Nicolas qui me répond. Oui, mais tu n'as pas à t'en vouloir. À cet âge-là, c'est dur de se rendre compte de ça. Et le simple fait que tu le remarques me prouve que t'es un gars bien. Et donc moi qui lui réponds, je veux juste que tu saches que mes futurs enfants, je leur raconterai ce que j'ai fait pour ne jamais que ça se reproduise. Pardon encore pour tout. Et Nicolas qui m'envoie, alors c'est le principal, bon courage à toi et à fond mec. Et en fait, je me rappelle très bien du moment où je recevais ces messages. Dans ma tête, je me préparais finalement à sa colère. Je me disais, il va m'en vouloir. Et en fait, ces messages étaient gentils. C'était peut-être le pire d'ailleurs, c'est que je me suis dit, mais... peut-être que si j'avais pris juste le temps de le connaître, peut-être que ça aurait été quelqu'un avec qui je me serais super bien entendu. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door.
C'était Dans la tête de deux harceleurs, un reportage de Karine Lelouette réalisé par Anne Depelchin. Merci à Damien et à Antoine, ainsi qu'à Valentin Rémy, attaché de production des Pieds sur Terre, et à Luce Mourant, notre stagiaire. I'm falling apart right in front of you.
I'm falling apart.